Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Chrétienté, dirigé en deuxième partie par Daniel Amiche, diffusé en direct jeudi 26 mai 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé vendredi 27 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonsoir chers amis auditeurs, heureux de vous retrouver pour cette seconde partie du Libre Journal de Chrétienté du jeudi 26 mai. Vous avez passé cette première partie fort agréablement, je l'espère, avec notre ami Guillaume de Thieulois. Mais là maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est fini la rigolade avec moi. Terminé maintenant, c'est terminé, on va passer aux choses extrêmement sérieuses. Alors nous aurons ce soir deux invités par téléphone, c'est un peu compliqué actuellement et ça n'a rien à voir avec la pénurie d'essence. Je pense que là c'est des problèmes techniques, les gens ne peuvent pas toujours être là, surtout quand ils habitent loin ou qu'ils sont au loin. Et puis deux personnes dans le studio. Alors je commence à présenter les invités de ce soir. Nous devons avoir dans quelques minutes notre ami maître Jérôme Triomphe, qui est l'avocat préféré des auteurs de Radio Courtoisie, hein, à défaut de lettre du ministre, enfin du garde des Sceaux, qui va nous parler, hélas, de l'affaire, d'une affaire bien pénible, qui est celle de Vincent Lambert, où il y a eu des développements qui sont quand même pas très très encourageants. Et puis, sitôt le passage avec notre ami Triomphe, nous entendrons Clotilde de Chrome. Brugge, c'est ça, hein.
Tout à fait.
C'est un peu compliqué. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. C'est très, très difficile. On m'a fait demander plusieurs fois. Ici, la technique, c'est vraiment c'est la bonne orthographe.
C'est
un nom propre avec deux G suivi de deux H.
Voilà, c'est un déstockage de consonnes.
Alors ça, c'est pour le Scrabble, c'est drôlement bien, si vous voulez. Pour le mot le plus long aussi, c'est très très bien. Et pour nous, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est très. Alors, vous êtes une des administratrices de l'œuvre scolaire Saint-Nicolas. Vous savez que c'est une espèce de filiale de nos amis de Renaissance catholique, en quelque sorte. Et vous venez nous parler d'un magnifique livre d'histoire. C'est un livre dit un manuel d'histoire. C'est un manuel d'histoire pour les petits enfants. Donc, c'est Histoire de France pour nos enfants. Très très bien, très très bon livre. Puis ensuite nous aurons par téléphone Leïla Cadre, qui est déjà venue dans cette émission. Bah, l'année dernière, je crois que c'était en juillet ou en août ou en septembre, enfin, elle est déjà venue nous parler du premier volume d'un livre très intéressant sur Les trois visages du Coran. Là, elle vient de sortir le deuxième tome. Ce qu'elle a à nous dire est tout à fait passionnant. Et puis nous aurons pour terminer cette émission en beauté, si je peux dire, avec une petite touche transatlantique, et nous aurons notre ami Vivien Hoche, qui est toujours docteur en philosophie, puis qui est aussi animateur du comité Trump France, et qui, je observe d'ailleurs, nous n'avons pas la télévision encore, nous sommes sur Radio Courtoisie, mais je peux vous garantir que notre ami Vivien a mis la cravate qu'arbore très très souvent Donald Trump dans ses campagnes.
Voilà. La cravate Trump.
Ouais. C'est la cravate Trump, c'est très élégant, enfin c'est un peu... Voilà, ça fait un peu blanc rouge, d'ailleurs c'est pas si mal que ça. Eh bien écoutez, voilà à peu près le programme de cette émission, et puis nous aurons bien sûr quelques brèves à vous signaler au fur et à mesure que se déroulera notre émission. Mais d'abord évidemment, je souhaiterais avoir au téléphone, et nous l'avons je le sais, notre ami maître Jérôme Trion. Bonsoir mon cher maître, comment allez-vous?
Bonsoir cher Daniel, eh bien, écoutez je vais très bien.
Bah alors oui, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas eu dans ce studio, à cause des nombreux engagements que vous avez.
Ce qui est rare et cher, et je me fais désirer.
Voilà, mais on vous a regretté beaucoup il y a 4 semaines, parce que nous avions nos amis de Leader Vocal qui étaient très fort maris.
Oui, alors j'en profite, oui. Je ne sais pas s'ils nous entendent en direct ou s'ils nous entendront en redifféré, en différé sur Internet, parce qu'ils sont suisses,
oui.
Mais je les remercie.
Ils sont en Suisse, ils sont en Suisse.
Ils sont en Suisse, oui. Pardon. Et je les remercie parce qu'ils m'ont offert, par votre intermédiaire, cette délicate attention de m'adresser leur dernier album. Oui. Je viens de l'ouvrir, je viens de le recevoir, et donc rien que les titres,
vous allez voir,
du contenu.
C'est épatant, c'est très très bien. Vous allez voir, vous allez vous régaler avec ça. Alors, cher maître, nous, ce n'est pas pour parler de musique, hélas, que nous allons converser un peu ce soir, mais c'est pour que vous nous donniez quelques informations sur l'état du dossier de de Vincent Lambert. Quand je dis l'état du dossier, d'ailleurs, j'utilise un mot qui n'est pas approprié parce qu'il s'agit d'une personne et pas d'un dossier. Hein. C'est une personne vivante, une personne humaine. Et donc, qu'en est-il exactement ?
Ce qu'il y a autour de Vincent, malheureusement, est devenu
un vrai dossier.
Même un dossier de paperasserie technocratique.
Ouais, ouais.
Vous disiez musique, eh ben, vous n'aviez peut-être pas tort parce que en réalité, c'est à une cacophonie à laquelle nous assistons. Je rappelle, alors qu'aujourd'hui, je suis allé plaider avec mon confrère et ami Jean Payot à la Cour administrative d'appel de Nancy. De quoi s'agissait-il ? Après l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, le docteur Daniela Simon, nouveau chef de service au CHU, a engagé une troisième procédure collégiale dans le but d'arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent. C'était le 15 juillet. Le 16 juillet, elle écrit à tout le monde, 2015, pour dire « je vous donnerai ma décision le 23 juillet ». Le 23 juillet, contre toute attente, alors qu'on connaissait parfaitement le fond de sa pensée et la décision qu'elle avait prise, elle dit ben, « je suspends la procédure collégiale ». En réalité, c'est la direction générale du CHU qui lui a dit « maintenant, ma cocotte, tu arrêtes ce délire parce que tu es en plein conflit d'intérêts ». Elle accompagnait l'épouse Rachel Lambert à la Cour européenne des droits de l'homme dans une délégation officielle. Elle était conseillère de Rachel Lambert avec trois autres membres de l'équipe médicale. C'est invraisemblable, au mépris de ses obligations déontologiques et juridiques d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de l'ensemble des partis. Donc, à un moment, la direction du CHU lui a dit « arrête, stop, c'est fini, arrêtons cette folie, arrêtons ce fiasco à la fois humain, médiatique, judiciaire, médical, arrêtons ». Et donc c'est comme cela que le docteur Daniela Simon, qui elle ne rêvait que d'une chose, rêvait, je ne sais pas si c'est le terme, qui voulait aller jusqu'au bout dans la torpeur de l'été pour faire mourir Vincent Lambert, le docteur Simon dit le 23 juillet, elle était décomposée, c'était pas sa décision à l'évidence, je suspends la procédure collégiale parce que les conditions de sérénité, hein, il faut de la sérénité pour tuer les gens, vous comprenez ? Les conditions de sérénité et de sécurité ne sont pas assurées pour pouvoir continuer tout ça. Et nous demandons la nomination d'un tuteur. Bon. Là-dessus, les gens normaux, les gens de bon sens, de bonne foi, se disent « Ah, enfin, on y arrive, un peu d'apaisement devant cette impasse. » Les gens normaux, les gens de bon sens. Évidemment, je ne parle pas de François Lambert qui, lui, sans le moindre bon sens, a fait quoi ? Ben, il est allé au tribunal administratif pour demander l'application de la décision du docteur Cariget.
Alors, François Lambert, c'est qui ? C'est un neveu de...
Non, c'est un demi-neveu.
Un demi-neveu, en plus, d'accord.
Le fils de la demi-sœur de Vincent.
D'accord, ok.
Voilà. Donc, la demi-sœur de Vincent, qui pourrait, elle, faire des demandes, hein, en tant que sœur ou demi-sœur, n'en fait pas. En revanche, le fils de... la demi-sœur en fait. Alors, heureusement qu'il n'a pas d'enfant, ce malheureux François Lambert. Imaginez le bordel, le bazar.
Ah oui, oui, attention.
Imaginez les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de François Lambert qui iraient agir à la place de François, de sa mère qui elle-même est la demi-sœur. Enfin, ça devient invraisemblable. Donc, qu'a-t-il fait ? Il a attaqué devant le tribunal administratif en disant la chose suivante. Le fait que la décision du docteur Cariger d'arrêter l'alimentation, en réalité, de faire mourir Vincent, n'est pas appliquée, cela me cause à moi, François Lambert, un préjudice moral important. Tenez-vous bien, hein ? Non, mais c'est écrit noir sur blanc.
Ça me cause
un préjudice moral important. En réalité, il l'a écrit dans Libération le 16 juillet 2015. Tout le monde pense que je fais ça pour passer à la télévision. C'est faux. Je fais tout ça pour ne pas être dévoré. Je fais tout ça pour ne pas sombrer. Donc, sa requête n'est pas judiciaire, elle est thérapeutique.
Bon. Oui, c'est lui qu'il faut soigner, alors, c'est pas...
Écoutez, je vous laisse la responsabilité...
Écoutez, c'est quand même bizarre, c'est lui-même le dit.
Mais c'est lui-même qui le dit. Il dit, je fais tout ça pour ne pas sombrer, pour ne pas être dévoré. Voilà le terme exact.
C'est incompréhensible.
Et que se passe-t-il au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, devant qui nous commençons commençons à avoir quelques succès, puisque nous n'avons eu des décisions favorables au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 décisions favorables. Le tribunal de Châlons-en-Champagne lui dit « Mon coco, t'es gentil, mais circuler, il n'y a rien à voir », et le déboute dans les grandes largeurs. Que fait-il ? Tout ça, ça date de la rentrée là, de 2015, hein, septembre-octobre 2015. Il va au Conseil d'État, parce que nous avions à la fois un référé et une procédure au fond. Il va au Conseil d'État. Nous faisons constituer notre cher avocat au Conseil d'État de la Cour de cassation, Maître Claire Lebret de Zaché. Le Conseil d'État, très sèchement, le déclare irrecevable. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Et il va à la Cour administrative d'appel, et c'était la procédure d'aujourd'hui, de Nancy, pour dire « Je demande que vous mettiez à exécution la décision du docteur Carigère ». Problème, le docteur Carigère n'est plus là. Voilà, il a quitté le CHU de Reims depuis le 1er septembre 2014.
Oui,
il n'est plus
temps,
là,
ça
donc
fait un bout de temps.
Sa décision est caduque. La décision du docteur Carigère est caduque, médicalement et juridiquement. Donc, on ne peut pas la mettre à exécution, puisque la loi prévoit que c'est le médecin qui prend la décision, qui la met à exécution. C'est la responsabilisation à la Leonetti, le médecin tout-puissant dans sa tour d'ivoire, le mandarin, etc. Bon.
Pardon, Maître Trion, vous dites que la loi dit ça ?
Attendez, parce que c'est notre ami Vivien Hoche qui prend la parole, ça me le demandait d'ailleurs.
Pardon.
C'est effrayant.
Oui, c'est terrible.
Faites la police de l'émission, Daniel.
Mais je
prends des notes.
On ne sait pas qui parle, alors je suis obligé de dire qui parle.
Je prends des notes très consciencieusement. Il faut appliquer la décision du docteur Carigère. Le docteur Carigère est parti, de fait. Quelle loi dit que finalement ça ne peut être que Carigère qui applique cette décision ?
Oh ben écoutez, Dieu merci, il n'existe pas encore de loi. De l'ex-Carigera ou de Carigérus, il n'existe, je ne sais pas comment on peut dire, il n'existe pas encore de loi dans lesquelles il est écrit le docteur Carigère devra appliquer la décision. Non, c'est en réalité l'article R4127-37 du Code de la Santé publique, il suffit de le lire et les choses sont très claires. Et puis il faut lire également les débats parlementaires pour comprendre l'esprit de Leonetti qui est encore une fois, de déresponsabiliser l'ensemble des membres de la famille dans ce genre de décision pour qu'un seul médecin, même pas une équipe collégiale, mais un seul médecin assume seul la décision. Voilà. Donc, nous en étions là et nous arrivons à la Cour administrative d'appel. Conscient quand même d'une chose, c'est que ça pose une difficulté de demander l'exécution de la décision du docteur Carigère. François Lambert a fait un subsidiaire qui consiste à dire « Bon, si vous ne me donnez pas raison au principal, je vous demande d'enjoindre au docteur Daniela Simon de reprendre la procédure collégiale qu'elle a suspendue le 23 juillet 2015. Ce qui est absurde, mais qui est grotesque, en droit et en fait. Je ne vais pas vous développer les raisons de droit, et en fait, il y a une raison simple, c'est qu'il y a une tutelle qui est en cours. Et que la tutelle, elle a comme seul enjeu le transfert de Vincent. Bon. Et alors là, là-dessus, coup de théâtre, il y a deux jours, le rapporteur public, qui est pas une sorte de procureur, c'est un juge, un magistrat administratif qui donne son avis en indépendance, en toute indépendance de la juridiction, et la juridiction l'écoute attentivement et peut suivre ses avis ou ne pas les suivre. En règle générale, ils sont suivis, mais pas toujours. Et là, le rapporteur public va nous développer ses arguments qui sont en fait inexistants pour dire il faut faire injonction au docteur Daniela Simon de reprendre la procédure collégiale parce que nous sommes devant une impasse et qu'il faut prendre une décision. Mais, on marche sur la tête. Comme je lui ai répliqué d'abord, alors pour une fois, nous faisions cause commune avec le CHU de Reims puisque leur avocat et nous plaidions la même chose pour dire mais c'est aberrant ce que vous dites. Bon. Donc le docteur Daniela Simon ne peut pas reprendre de procédure collégiale. D'abord, un médecin a parfaitement le droit d'engager une procédure collégiale, mais de la suspendre si les conditions ne sont plus réunies. Je vous donne un exemple que j'ai plaidé tout à l'heure. Vous avez une personne qui est hors d'état d'exprimer son consentement, qui serait en situation d'obstination déraisonnable. Le médecin va engager une procédure collégiale pour savoir s'il faut arrêter ou pas le traitement, entre guillemets, dont il est bénéficiaire. Si la personne ouvre les yeux au cours de la procédure collégiale et se remet à parler en disant « Des cocos, c'est bon, je ne suis plus hors d'état d'exprimer mon consentement, bah, le médecin arrête la procédure collégiale, c'est tout. Il n'y a pas besoin de la continuer, de prendre une décision, puisque évidemment la personne redevient apte à exprimer son consentement. Voilà, nous avons dit ça, nous avons dit également beaucoup d'autres choses, mais le fait que la Cour administrative ne peut pas faire une injonction à un médecin qui est personne privée, en plus, sans parler de la question de l'indépendance médicale, de la liberté de prescription, etc., le docteur Daniel Simon n'est pas parti à la procédure, donc on ne peut pas faire une injonction à une partie qui n'est pas partie à la procédure, donc tout ça est aberrant. Et surtout, le point central de notre argumentation a été de dire il existe un principe qui est fondamental dans le droit de la santé publique, c'est le libre choix du praticien de l'établissement de santé. Vincent ne peut pas exercer ce libre choix. Il y a donc deux solutions. D'abord, nous les parents, nous sommes en train d'exercer ce libre choix en tant que protecteur naturel. Il y a de la jurisprudence sur le sujet. Nous avons fait une action qui est pendante, qui sera pratiquement sans objet bientôt quand un tuteur sera nommé. Et quand le tuteur sera nommé, il y a une seule personne qui sera chargée de faire respecter le libre choix qui est un principe fondamental, celui du praticien et de l'établissement de santé, c'est le juge des tutelles. Or, et c'est là que je parlais de cacophonie au début de mon propos, vous avez d'un côté une juridiction administrative qui est saisie avec un rapporteur public qui dit ordonner au docteur Simon de reprendre une procédure collégiale. En admettant que la cour administrative y fasse droit, que le docteur Simon reprenne la procédure collégiale, prenne une décision de mort, la mette à exécution, cela viendrait contredire la compétence exclusive du juge des tutelles qui est seul légalement compétent pour décider où doit vivre Vincent.
Nous sommes devant une
cacophonie entre juridictions, avec un procureur de la République qui veut également le transfert, un CHU qui veut le transfert, les parents qui veulent le transfert, et ceux qui veulent la mort, qui ne veulent pas du transfert. Donc, ce que nous avons demandé, c'est évidemment une décision en droit, une décision, et puis une décision qui appelle tout cela. Parce que
cette décision, c'est celle pour le 9 juin, c'est celle qui est prévue le 9 juin ou pas ?
Le 9 juin, c'est donc cette décision de la Cour administrative d'appel sera rendue le 16 juin. Le 9 juin, nous aurons plaidé devant la Cour d'appel de Reims en appel de la nomination. Là aussi, un truc aberrant, mais enfin, ça ne peut pas tenir en droit puisque c'est contraire au droit. De la nomination de Rachel Lambert, l'épouse, en tant que tutrice. Et nous en sommes là de cette cacophonie, de ces contradictions. Cela n'a aucun sens. Et comme je l'ai dit à la Cour tout à l'heure, en répliquant au rapporteur public, nous sommes devant une impasse, oui, parce que c'était l'argument du rapporteur public, mais c'est une impasse au CHU. La solution, elle est ailleurs.
Bien sûr, voilà, c'est clair. Ça me semble clair. Enfin, ce que vous dites est de bon sens maintenant. Est-ce que le bon sens...
Le bon sens a beaucoup déserté cette malheureuse affaire. Et pendant ce temps-là, eh bien, le malheureux Vincent est toujours enfermé un univers carcéral, dans une chambre fermée à clé, surveillée par une caméra, et on ne peut y accéder que lorsque on est ses parents, ses frères et sœurs, et c'est tout. Et le neveu, le demi-neveu François Lambert, qui lui a le droit d'y aller, il est sur la liste. Alors que les autres neveux, qui sont les enfants des frères et sœurs qui se battent pour la vie, eux n'ont pas le droit. C'est insupportable. Donc il est toujours dans son univers carcéral, privé de kinésithérapie, privé des soins élémentaires, de la mise au fauteuil. Il est toujours dans cette situation, c'est épouvantable et c'est insupportable. Nous espérons un dénouement prochain de tout cela pour qu'enfin Vincent se retrouve dans un autre établissement. Et comme nous l'avons dit à la cour administrative, si la procédure collégiale qui importe au rapporteur public, ne vous inquiétez pas, quand il sera transféré dans un autre endroit, ceux qui veulent une procédure collégiale, ils demanderont une procédure collégiale, mais cette fois nous aurons une vraie équipe médicale, des gens sans parti pris, parce que nous le ferons transférer, espérons-le, mais là où il devrait être transféré, évidemment, c'est avec un cahier des charges précis, c'est celui de la circulaire du 3 mai 2002, celle qui dit où doivent être soignés et par qui les patients cérébro-lésés. et la plupart des médecins jamais ne seraient rentrés dans cet acharnement, et à la première opposition des parents se seraient arrêtés immédiatement. Donc voilà, l'avenir est plein d'espoir, d'espérance, et c'est pour cela que nous continuons à nous battre.
Eh bien écoutez, je vous en félicite, et je vous félicite de votre pugnacité, surtout de votre connaissance du dossier qui est absolument impeccable, parce que quand même les codes machin truc, il connaît tous les trucs par les paragraphes et les machins, c'est hallucinant. Alors peut-être viendrez-vous nous en parler pour de bon le jeudi 23 juin, enfin en tout cas vous êtes invité, vous savez, vous êtes toujours ici chez vous.
Ah mais c'est noté, le 23
voilà.
juin.
Donc si vous n'avez pas quelque chose de mieux à faire ce soir-là, venez donc faire la causette ici, sur Radio Courtoisie.
Écoutez, hein,
parce qu'on aura quand même des nouvelles.
De plaider de Rennes.
Ah d'accord.
Mais normalement, j'aurai le plaisir de venir au studio.
Eh bien merci mon cher camarade, merci, bon courage. Et puis donc à notre semaine, et puis à nos auditeurs bien sûr, suivez un petit peu les réseaux sociaux et l'actualité pour voir ce qu'il en est de ces décisions des tribunaux du 9 et du 16 juin. Voilà. Merci cher Maître Triomphe, et donc à dans 4 semaines. Merci beaucoup.
À dans 4 semaines, à très bientôt.
Voilà, donc c'était notre ami Maître Triomphe, l'avocat des parents de Vincent Lambert, qui nous donnait des informations. Nous sommes bien sûr sur Radio Courtoisie. J'ai une petite annonce à faire dans l'émission Le Libre Journal de Chrétienté. Monsieur Vivien, vous voulez dire quelque chose? C'est trop tard.
Non, juste sur Vincent Lambert. Pour dire que les personnes qui veulent se mobiliser, j'ai découvert un excellent comité de soutien qui s'appelle Je soutiens Vincent.com. Et il y a un appel. Ce comité vous enverra des informations et proche de la famille.
Je soutiens
Vincent.
Je soutiens Vincent. Vous allez sur le moteur recherche. Je soutiens Vincent. Vous avez tombé sur le site.
Voilà.
Même j'ai signé hier la pétition.
J'ai découvert ça aussi. Et ils font vraiment du très bon travail.
Alors, une question d'un auditeur là qui est arrivé dans la première partie de l'émission. D'ailleurs, vous pouvez préparer vos messages pour cette partie de l'émission, puisque tout à l'heure, avec Trump, je pense qu'il y avait beaucoup d'auditeurs du quantique qui vont être intéressés de savoir ce que notre ami, monsieur Vivien Hoche, là, va avoir à nous dire pour la défense et l'illustration du candidat Trump. Un personnage spécial, enfin, un phénomène, on va dire. Hein, on appelle ça phénomène Trump. Bon. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer maintenant à la radio. Vous pouvez l'envoyer par Internet, enfin par courriel ou par téléphone. Et alors, c'est un monsieur qui s'appelle Antoine, je ne dis pas son nom, qui me dit « Connaissez-vous un homme du nom de ?» Alors, M.P., je ne peux pas dire le nom, n'est-ce pas, vous, monsieur comprendra, sorte de pasteur évangélique qui s'habille en gothique. Si je suis bien informé, l'individu se serait fait bannir de la marche pour Jésus. Pourquoi? Que faut-il penser de lui? Écoutez, monsieur, je n'en pense strictement rien. La marche pour Jésus, oui, je sais qu'elle a eu lieu il y a peut-être une dizaine de jours. C'est une marche organisée par nos frères évangéliques, donc protestants évangéliques. Je ne connais pas ce M.P. Hein, moi, j'ai les noms ici, mais voilà, je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser du tout. Je ne sais pas. Voilà. Alors, autre, c'est une annonce. Demain, nous sommes aujourd'hui jeudi 26 mai. Donc, demain, c'est vendredi 27 mai, si je ne me trompe pas. Je crois que si le calendrier est toujours à l'envers, c'est dans l'endroit, c'est dans ce sens-là. Donc demain, il y a une conférence très intéressante organisée par nos amis de SOS Chrétien d'Orient. Ça va se passer à Toulouse. Alors évidemment, c'est uniquement pour nous les habitants de la région. Enfin, à Toulouse, donc dans le 31 000, à 20h30, c'est à la maison diocésaine du Christ Roi. C'est quelque chose de très intéressant, c'est la visite en France de deux chrétiens irakiens, d'un petit village chrétien qui est au nord de Mossoul, et ce village a la particularité d'avoir un maire qui est une femme, donc c'est une chrétienne femme. Je crois que c'est la seule maire femme d'Irak, et en plus elle est chrétienne, bon, et elle est à quelques kilomètres de Mossoul, vous voyez, où il y a l'état islamique, hein, c'est vous dire quand même si les choses sont bizarres. Alors elle vient, donc elle sera en France jusqu'au 2 juin prochain, cette dame s'appelle Samea Solaka, et elle vient en compagnie du curé du village, qui s'appelle le père Yoshia, qui est chaldéen bien sûr, enfin comme voilà, ils sont chaldéens, c'est-à-dire catholique en fait, qui accompagne et qui se bat depuis 2 ans pour assurer un avenir aux chrétiens d'Irak, hein, un avenir qui est tous les jours plus difficile à imaginer. Il faut dire les choses comme elles sont, hélas. Il ne faut pas pour autant perdre tout espoir, mais les choses sont quand même vraiment très 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 compliquées. Alors voilà, nous passons sans vraiment
transition.
Sans transition, mais d'abord nous avons un message, si vous voulez bien. Non, vous allez voir, vous avez cette sous stress, la pauvre, c'est la première fois qu'elle vient à la radio. Elle est Clotilde, elle est absolument effrayée. Et en plus, je fais attendre. On a une information importante à écouter pour la vie de la radio.
Dimanche 12 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 12 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invite à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Retenez, dimanche 12 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrecher, métro porte de Champéret. Entrée 5 euros, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation, et pour les personnes de moins de 26 ans.
Mais tout le temps, alors voici, voilà, ça y est, on est en ligne. Donc vous avez bien sûr, chers amis auditeurs, pris note de ce rendez-vous très important pour la vie de la radio, puis pour nous-mêmes d'ailleurs, parce que c'est très agréable de vous rencontrer ce jour-là. Donc j'y sais, j'aurai donc un comptoir. Comptoir, on ne distribuera pas de boissons, je vous dis tout le temps. C'est pas, vous n'êtes pas un comptoir, on donne des cafés et de la bière à la pression.
Oh bah,
c'est pas, non, c'est pas comme ça. Et donc, comme invité ce jour-là, alors je vous préviens très gentiment que je ne peux être présent que de 12h30 à 16h30. Voilà. C'est le seul temps dont je puisse disposer ce dimanche pour la fête de Radio Courtoisie, parce que j'ai par ailleurs beaucoup d'activités paroissiales le matin et beaucoup d'activités paroissiales en fin d'après-midi, donc je ne peux pas être là, c'est impossible. Et c'est très navrant, parce que même en principe j'aurais dû être une confirmation d'un de mes filleuls. Enfin, je salue d'ailleurs le camarade Robert s'il m'écoute là, et voilà, je ne peux pas, je ne pourrais même pas y être. Alors ça, c'est vraiment navrant, mais le dimanche, je trouve que c'est pas une très bonne journée pour la fête de courtoisie. Personnellement, je préférais que la fête se déroule un samedi, c'est plus ouvert, et vraiment, surtout au mois de juin, il y a tellement de mariages, de confirmations, de réunions familiales, de baptêmes, de trucs, que c'est vraiment compliqué de trouver du temps. Voilà, donc on trouvera sur notre comptoir notre ami Philippe Maxence, qui est patron d'émission aussi sur Radio Courtoisie. Il vient présenter beaucoup de ses livres sur Maximilien Kolb, sur l'Irlande, dont il est un grand spécialiste, sur Chesterton, dont il est un des très très grands spécialistes. On trouvera également sur le stand, on pourra rencontrer l'abbé Hervé Benoît, qui le matin sera sur le stand, le comptoir d'Anne Brassier, et l'après-midi sur le mien, pour son magnifique ouvrage sur le chouan du Tanganyika. Alors, vous connaissez l'abbé Hervé Benoît, c'est un prêtre du diocèse de Lyon qui a atteint une notoriété internationale il y a très peu de temps, en novembre de l'année dernière. Vous trouverez également notre ami Olaf pour son grand secret de l'islam, un livre qui a une cesse d'être imprimé, édité, qui est un bon petit livre extraordinaire sur la gestation de l'islam et du Coran. Également Xavier Moreau pour son livre Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Thomas Vauquier sera présent ici pour les boucs émissaires. Également Stéphane Buffetot pour son ouvrage Oui, la France a un avenir. Et puis également donc Leïla Kadre pour les trois visages de l'islam que nous allons avoir tout à l'heure par téléphone depuis sa lointaine province. Voilà. Donc c'est le 12 juin 2016, espace Champéret, bien connu désormais des auditeurs de Radio Courtoisie. Et j'y serai évidemment, mais encore une fois, de 12h30 à 16h30, je ne peux pas faire plus cette année. En espérant que je pourrai faire l'année prochaine, mais nous verrons pour ce qui est de l'année prochaine, c'est encore un petit peu tôt. Alors, chère Clotilde Kronbrugge, on prononce comme ça votre nom ou pas ?
Tout à fait.
Kronbrugge,
c'est ça ? Kronbrugge.
Ah, Kronbrugge, c'est d'origine
flamande,
hein, voilà, ça, oui, c'est flamande, très bien. Alors, vous êtes partie d'une association très intéressante qui s'appelle l'œuvre scolaire Saint-Nicolas. Vous pourriez nous dire déjà ce qu'est l'œuvre scolaire Saint-Nicolas ?
Alors, l'œuvre scolaire Saint-Nicolas, elle a été fondée en 1994 et elle a pour but d'aider les écoles catholiques en aidant les fondations d'écoles, pour faire des écoles, pour également donner des conseils juridiques, fiscaux et pédagogiques. Et elle aide en faisant des livres, des ouvrages d'histoire, pour le moment d'histoire pour ces écoles et pour
des manuels.
Des manuels d'histoire pour la société en général. Et là, ils ont un projet également de faire deux nouveaux manuels qui concerneront la géographie et les sciences.
Très intéressant.
Alors, voilà, toujours pour les cours.
Voilà, c'est passionnant. Alors là, vous venez donc nous présenter un volume qui vient de sortir, parce qu'il y avait une petite histoire. Comment s'appelait le précédent volume? Ça s'appelait la petite...
Le manuel d'histoire de France.
Manuel, qui était destiné...
Pour les cours moyens.
Cours moyens. Et voilà. Là...
Et adultes.
Voilà, et pour les adultes, parce que
Monsieur
c'est vraiment...
Monsieur Mouvin m'a bien précisé de dire que c'est aussi
raison.
Pour les adultes.
Il a raison. Et alors, c'est pour le cours élémentaire, à présent, que nous...
Voilà, tout à fait, ce sont pour les
entre
tout
les mains.
Jeunes
ça s'appelle
enfants.
Histoire de France pour nos enfants.
Voilà, exactement. Et donc, c'est un livre qui vient de sortir, là, tout récemment.
Ah oui, tout. C'est encore le neuf, là.
Voilà, exactement. Et qui est dans la continuité du manuel d'histoire précédent qui avait été fait, qui a d'ailleurs eu un grand succès. Et c'est un ouvrage qui est issu d'un manuel des frères des écoles chrétiennes des années 60. Et ils ont demandé l'autorisation de pouvoir reprendre ce support, en tout cas cette base de données, qu'ils ont adapté, actualisé.
Bien
on a
sûr,
fait quelques petites découvertes en histoire depuis 1960.
Surtout en iconographie, on a quand même beaucoup d'iconographie dans l'ouvrage, donc il y a beaucoup de choses nouvelles.
Exactement, et du coup ils ont demandé au père Jean-Paul Hallette, qui est cité à la fin, l'autorisation de pouvoir reprendre ce manuel et de pouvoir le ressortir, adapté, actualisé, donc avec quelques petites corrections qui ont été faites, avec notamment les dominicaines enseignantes de Fonjeau.
Très bien.
Qui ont aidé pour les corrections.
Il y a d'ailleurs une belle préface aussi d'un personnage que vous connaissez.
D'un historien, de Jean-Louis Guiry,
Jean-Louis Guiry, que connaissent bien les auditeurs de Radio Courtoisie, qui apprécient beaucoup les auditeurs de Radio Courtoisie d'ailleurs.
Voilà, qui est réputé pour ses connaissances en Renaissance italienne, apparemment, c'est ce que m'a bien précisé
Monsieur
Mouvin. Donc voilà, qui vient de sortir ses mémoires d'ailleurs.
Très bien,
vous pouvez les trouver.
On va se les procurer.
Donc en fait, sur ce livre, il y a eu un retravail complet sur l'iconographie. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Vous m'avez bien aidé en amenant le sujet. Par une qualité enracinée, ça. Vraiment, je tiens à le dire, parce qu'on a essayé de trouver toujours des œuvres d'art très belles pour illustrer ce manuel. Et ça se déroule toujours de la même manière, donc avec une illustration, un texte, des mots en gras à expliquer. Donc pour le professeur, pour l'instituteur. Ensuite, vous avez un résumé à retenir. Et ce qu'il n'y avait pas dans l'autre manuel, là, il y a aussi des petites questions qui sont posées pour aider les enseignants à pouvoir en parler.
C'est les méthodes d'autrefois. C'est-à-dire qu'il y a toujours à la fin de la leçon, il y a un résumé avec des phrases très, très précises, très, très travaillées pour que les enfants puissent les mémoriser. Et puis ensuite, il y a des questions sur la leçon. C'est comme ça qu'on travaille, on ne peut pas travailler autrement. On a la leçon, le maître fait la leçon, il commente tout ce qu'il y a dans le livre, et puis il raconte des choses. Et puis après, il y a le résumé de la leçon. C'est ça qu'on devait apprendre par cœur. Moi, c'est ça qu'on devait apprendre. Quand on était petit, il fallait apprendre ça par cœur.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Donc c'était en bon français, mais sujet, verbe, complément, des choses bien que les enfants puissent bien se mettre ça dans la tête. Et puis il y avait des questions aussi, qui étaient des questions de cours, ça c'est les parents qui peuvent poser ces questions aux enfants, voir s'ils ont bien pris la leçon, le professeur peut le faire, enfin, c'est vraiment ce qu'on faisait autrefois. Et donc ça couvre pour ces petits-enfants, mais c'est également très intéressant pour les adultes, ça couvre donc la période quand même de la Gaule jusqu'à aujourd'hui. Quoi,
exactement, bon. Jusqu'à François, finalement.
Voilà, jusqu'à quasiment...
il faut le dire.
Voilà,
il est presque en photo dedans.
Ouais, bon, ça,
mais voilà. Pour les qualités iconographiques, voilà. On ne l'a pas mis.
On ne l'a pas mis, voilà, parce qu'il ne faut quand même pas... Faut pas faire peur.
Pas de place.
Attends, c'est pas un film d'épouvante, c'est pas un livre d'épouvante. Faut pas faire peur aux enfants.
Non, ça n'est
quand
pas
même,
le but. Hein. Voilà, et puis le but, au contraire, c'est de le vendre.
Voilà, donc c'est vraiment un livre avec très belles illustrations.
Voilà, avec un langage adapté pour
très
les enfants.
Adapté, évidemment. Alors, c'est un ouvrage qui est destiné. Et à l'enseignement catholique, on peut, même si on n'est pas catholique, on peut le lire quand même. Donc il y a beaucoup de références aussi, si j'ose le dire, parce qu'il ne faut plus le dire, aux origines chrétiennes de la France, comme au fait que le christianisme a quand même...
Mais maintenant, c'est un manuel d'histoire qui est pour ceux qui aiment la France et la vérité.
Et la vérité, voilà.
Voilà.
Alors, donc,
qui est fait pour dans un esprit de piété filiale.
Voilà, on parle de Saint-Louis et des croisades, par exemple, on parle des saints, on parle de Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, elle a droit à deux illustrations, d'ailleurs. Hein. Vous avez vu, c'est la seule, je crois, le seul personnage qui a le droit à deux.
Alors j'ai pas fait la comptabilité.
Ah bah moi je vois. Alors page 68, en page 68 et en pleine page en 71. Eh oui, en pleine page en 68 et pleine page en 71. Voilà. Donc c'est quand même bah oui. Et même une troisième fois, tiens, j'avais pas vu derrière se cacher une photo. Voilà, c'est bien vive Jeanne d'Arc. Mais alors des personnages extraordinaires, c'est ça qui est extraordinaire. Moi ça me rappelle ça. Je me souviens tout à fait. De ça. Le Grand Ferré par exemple. C'est des personnages qu'on connaît plus. Jeanne d'Arc, je pense encore, elle est à peu près dans les manuels scolaires. Sainte-Geneviève, elle y est plus. Bon. Jeanne Hachette, elle y est plus non plus. Le Grand Ferré. Moi, je pleurais quand j'étais petit, quand on me faisait la leçon. J'étais en primaire. Je pleurais. je pleurais. Parce que le Grand Ferry, il va se battre contre les Anglais. Il a une hache, le Grand Ferry. C'est un costaud des Batignolles, le Grand Ferry. Et alors, un jour, il se bat avec les... Il en tue. Alors, nous, les enfants, étaient très contents, parce qu'on serait pensé, parce que c'est que tuer les gens à cette époque-là. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, les Anglais, d'abord? Ah, la question qu'on se pose. Donc, tout de suite, déjà, un petit côté patriotique. Et puis, alors, il s'échauffe tellement il en tue. Il est en sueur, tellement il en a zigouillé. Alors, il a soif. Et alors, il va dans un puits, il boit un baquet d'eau glacée. Et paf, il meurt de congestion. Bon. Et alors, nous, ça nous faisait pleurer. Mais on pleurait vraiment. Le Grand Ferry était mort d'avoir bu de l'eau. Donc, déjà, ça nous disait, attention à l'eau. Ouais. C'est une leçon que j'ai retenue toute ma vie. Attention à l'eau.
Le nom du vin
voilà.
Et du champagne.
Mais voilà, c'est le truc. Le Grand Ferry, aujourd'hui, inconnu. Eh bien, il est dans le livre. Voilà. Parce que ça, c'est des choses qui sont marquantes pour les petits-enfants. Des choses qui leur apprennent dans quel pays ils sont, avec qui ils sont. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Vous faites l'amour?
Ah si, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ah bon?
Là, je ne me permettrai jamais de vous contredire. Non, je ne l'ai juste pas repéré encore dans le livre.
Ah bien, le Grand Ferré, mais alors c'était... Bah, attends, moi je l'ai vu.
Daniel et Clotilde, je ne connaissais pas, je l'avoue.
Le Grand Ferré?
Non, bah écoutez, j'ai fait l'école républicaine
je vais vous retrouver
ça. République est bien malheureuse.
On va vous faire la leçon tout de suite.
J'ai vu la superbe image, il y a d'ailleurs des superbes illustrations.
C'est pas possible. Ou qu'il est mon Grand Ferré. Attendez, parce que c'est un personnage très bien, qui s'est battu contre les Anglais. Bon, une bonne personne, le Grand Ferré. Attends, là, il suffit que j'en parle pour ne plus le retrouver, évidemment.
Ah bah c'est toujours comme ça.
Voilà, donc c'est un.
En tout cas, vous disiez qu'il était destiné.
Fin de la guerre de 100 ans. Voilà, le Grand Ferré, premier. En plus, c'est le premier héros. C'est un paysan. Donc, son arme, c'était pas la hallebarde ou l'épée, c'était la hache. Voilà, la hache, à la hache. Une bonne personne. Et ben, voilà, le Grand Ferré, vous avez toute une leçon. Sur le Grand Ferré et surtout sur le fait que c'est un personnage emblématique qui a entraîné le patriotisme autour de lui. C'est l'équivalent du roi de France, enfin de la bataille de Bouvines, si vous voulez. Hein. C'est quasiment une victoire patriotique, c'est la première victoire patriotique française qui a. Tout le monde était à la bataille autour du roi, quoi. C'est formidable des choses pareilles. Et puis vous avez des héros plus modestes. Hein, des pauvres paysans de rien du tout, dont on n'a gardé aucune image, ça c'est une photo, c'est une statue qui a été imaginée, qui ont eux aussi su mobiliser la population, comme Sainte-Geneviève en France, comme Sainte-Jeanne d'Arc, voilà, c'est des personnages qui... C'est des vrais des entraîneurs, quoi. Voilà, des entraîneurs. C'est extraordinaire, ça.
Oui,
alors, voilà, livre très, très, très beau. Alors, pour se procurer, comment peut-on faire?
Alors, il y a beaucoup de solutions. Il y a la première, c'est déjà d'avoir sur son compte 23 euros plus 5 euros de frais de port.
Ah!
Ça, c'est la base. Vous pouvez l'avoir à la...
Il faut faire vite, parce que peut-être ils vont se mettre en grève, hein, les postes aussi.
Ouais,
là, parce que actuellement, c'est la dernière mode. Hein, c'est tout le monde en grève.
Du coup, il faut aller à la fête de Radio Courtoisie, de la Courtoisie, pardon, le 12 juin.
Il sera
sur le stand de Gabriel Cluzel.
Voilà, mon ami Jean-Pierre Maugendre me fait cette année une petite entorse, mais enfin, je reconnais que Gabriel Cluzel est plus belle que moi. Donc, je comprends qu'il préfère Gabriel Cluzel à moi. Je ne suis pas jaloux à ce point. Mais voilà, donc il sera sur le stand de Gabriel Cluzel. Vous pourrez aller acheter les deux volumes de l'Histoire de France et de la Petite Histoire aussi.
Voilà, tout à fait. Sinon, vous pouvez l'avoir par Internet, aux œuvres scolaires @gmail.com, par courrier aux œuvres scolaires Saint-Nicolas, 13 Avenue de la Paix, 92 130, ici les Moulineaux.
Alors, il faut nous redonner l'adresse, parce que là, vous l'avez dit tellement vite que les gens n'ont pas eu le temps de noter.
Mais je vous la redonne. Donc, c'est 13 Avenue de la Paix. Donc c'est les œuvres scolaires Saint-Nicolas, 13 Avenue de la Paix, 92 130, ici les Moulineaux, ou par téléphone au 01 47 36 17 36. Voilà, et dans toutes les librairies, maintenant vous pouvez l'avoir dans toutes les librairies. Et donc il est destiné aux écoles, aux professeurs, aux enseignants, aux familles, aux incultes comme moi, aux enfants qui veulent apprendre, aux grands-parents, voilà, c'est une base de bibliothèque.
Et vous êtes déjà maman ou pas?
Je suis maman déjà deux fois.
Deux fois, parce que là, encore une fois, c'est pas...
bientôt un troisième.
C'est Radio Courtoisie, et porter des courtoisies, mais là, vraiment, ils n'avaient plus pour longtemps quand même, là, maintenant.
Non, c'est pour juillet.
Ouais, y a, c'est magnifique. Alors, c'est quoi ces petits garçons, petites filles, vous avez au premier coup?
Je n'ai pas le droit de le dire, mon mari n'est
non, mais,
pas
non, mais les deux premiers que vous avez, c'est quoi les deux premiers?
J'ai une petite fille et un petit garçon.
Vous avez un enfant, quoi. Alors, donc, voilà, donc, alors, bon, on vous souhaite un deuxième garçon, faire un enfant. Voilà, donc,
merci
alors,
beaucoup.
On... Mais qu'est-ce que vous avez
Je sais pas.
C'est des blagues habituelles,
ah bon,
ça.
Vous
avez l'air de tomber.
Oui, non, mais je sais pas.
Non, mais vous, depuis, vous avez l'esprit tellement américain maintenant
ça
que
commence,
la bonne blague française vient de chez nous, ça, c'est terminé
maintenant. stéréotypé, mais enfin.
Ouais, ouais, enfin bon, voilà, bon, bah écoutez quand même.
J'espère que vous respectez les stéréotypes de genre dans le manuel.
Voilà, donc, alors.
Oui, évidemment.
Voilà, c'est vraiment un manuel, tout ce qu'il y a.
Les manuels scolaires
sont basés sur l'enseignement de Najat.
Tout ce qu'il y a, oui,
évidemment.
Normalement, vous êtes libre pour faire les manuels en plus. Enfin, les manuels sont libres par rapport.
Oui, c'est à peu près.
Ils doivent respecter un petit peu le programme.
Après, il faut les vendre, c'est ça le problème, quoi. C'est le gros problème.
Oui, effectivement. Mais n'importe quel professeur, je tiens à le préciser, peut acheter ce manuel et l'utiliser en cours.
En support, tout à fait. Alors, et on lui recommande d'ailleurs.
Oui, alors,
Pendant qu'on appelle notre prochain, excusez-moi quand même, hein, parce que là, l'émission, faut qu'on y aille, hein, c'est pas fini. Si vous voulez parler, faut pas parler maintenant, parce qu'après, on n'aurait plus de temps. Hein, je vous préviens, monsieur Vivien Hoche. Hein. Là, vous avez parlé déjà.
Oui, mais moi, je trouve ça très bien qu'il fasse de la pub pour un aussi bon manuel.
Voilà, mais c'est très bien, très bien.
Donc, je lis en cours.
Histoire de France pour nos enfants, venez à la fête de Radio Courtoisie, vous le trouverez. Et puis, par Internet, en librairie, vous pouvez le commander. Et puis, il n'y a pas de souci. Alors, évidemment, un auditeur demandait si le docteur Simon, enfin Daniel et Simon, était une descendante du savetier du temple. non, pas, mais enfin bon,
ah,
voilà.
Il y a eu des docteurs Simon dans l'histoire de France.
Oh, il y en a eu. Et puis, voilà. Et puis des pas bons, hein, on peut pas les
pas voilà. Des très bons, non.
Alors, juste deux petites choses, deux petites annonces pour nos amis auditeurs. Donc, le mardi 14 juin, on a un petit peu de temps, hein, mais c'est à 19h, ce sont des amis de Politique Magazine qui ont partenariat avec le Cercle Histoire, Culture et Patrimoine, organise une conférence auquel participeront Hilaire de Crémier, et qui est le directeur politique de Politique Magazine et de la Nouvelle Revue Universelle, et Gilles Varange, chroniqueur de Politique étrangère, sur le thème 2017 et après. Donc on sent ça renifle les élections présidentielles, tout ça, donc perspective nationale et internationale. Voilà, c'est intéressant. Donc tous les renseignements, c'est 01 42 57 43 22. 01 42 57 43 22. Les conférences ont lieu. La conférence a lieu à 19h30 précise, salle Messian, 3 rue de la Trinité, dans le 9e arrondissement de Paris. Donc c'est organisé sous ce qu'on appelle les mardis de Politique Magazine. Voilà, alors j'ai fait cette annonce, je crois que je suis sorti de toutes mes annonces de soir, je suis extrêmement content, j'en ai plus, donc je suis heureux comme tout. Et nous continuons donc cette émission, et maintenant nous avons le bonheur d'avoir par téléphone Leïla Cadre. Leïla Cadre, est-ce que vous êtes au téléphone ?
J'entends, Daniel, bonsoir.
Eh bien, je suis heureux de vous avoir. Ça va rappeler à nos amis auditeurs une émission que nous avions eue. Alors, je me souviens que c'était en juillet ou en août de l'année dernière.
En août, c'est cela. Oui, avec Olaf.
Voilà, tout à fait. Tout à fait, je me souviens très bien.
Salut.
Alors, je pense qu'Olaf n'est pas dans le studio, mais enfin, vous le retrouverez, puisque vous serez à la dédicace de Radio Courtoisie le 12 juin prochain. Il sera votre voisin de comptoir. On dit maintenant, on dit un comptoir. Voilà, voisin de comptoir. Et nous nous étions rencontrés après, précisément, avoir fait votre connaissance à la fête de Radio Courtoisie de juin l'année dernière. Je me souviens très bien que nous étions vus à ce moment-là. Alors, vous avancez toujours un projet qui est un projet universitaire, mais qui est plus qu'un projet universitaire. Il faut quand même le dire, c'est un projet très intéressant pour les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui et que nous avons à affronter, qui est la question de l'islam, la question de la religion musulmane, la question du livre, du Coran. C'est toujours un énorme problème. Alors, vous venez de sortir le tome 2, il faut dire le tome. La tome, c'est le fromage, et tome, c'est le livre. Le tome 2 d'une série qui s'appelle Les trois visages du Coran. C'est des éditions à compte d'auteur que vous faites, évidemment, pour vous.
Oui, c'est auto-édition.
Voilà, auto-édition, c'est des travaux d'étape sur votre recherche. Vous êtes doctorante sur cette question-là. Donc, c'est à l'Université de Toulouse, je crois, que vous préparez.
Marie-Thérèse Urvoy, donc sur le thème de l'Alliance, est-ce qu'il y a des traces de l'Alliance biblique dans
le
Coran ?
Voilà, ça c'est très... On va en parler de ça. Alors là, le tome 2 s'appelle Les scénarios de l'écriture, donc c'est un livre extrêmement, extrêmement savant, extrêmement, extrêmement intéressant, je dois dire. Et je voulais, peut-être pour lancer notre discussion, j'espère peut-être que vous viendrez dans 4 semaines, je ne sais pas, c'est prévu plus ou moins que vous veniez, non, je pense, non ?
Bon,
très bien.
Parce qu'on aura des questions en vacances.
Voilà, on aura l'occasion, parce que là, vous habitez au loin, donc c'est un peu compliqué pour vous. C'est pourquoi j'en ai pris là.
Il y avait tellement de grèves que.
Ah oui, en plus, les grèves. Oh, là. Et puis, même pour les gens qui ont des voitures, les gens qui ont des voitures ne peuvent même pas se déplacer non plus, il n'y a pas d'essence. Alors, comme ça, on est tranquille. Bon, sauf à venir à Paris à pied, mais ça prend un petit peu de temps.
C'est un peu loin.
Alors, voyez, on va peut-être commencer par ça, parce qu'on a prévu deux, trois questions, mais nous n'allons peut-être pas pouvoir traiter de ces trois questions, parce que c'est quand même important. Je remarquais cet après-midi, là, en voyant. il y a une table ronde qui va être organisée à Paris le 28 mai, donc c'est dans, après-demain, sur le thème « Chrétiens et musulmans ensemble avec Marie ».
Oui.
Et en présence de Mgr Bruno Lefebvre Pontalis, donc c'est un monseigneur, c'est pas un évêque, mais c'est un monseigneur, qui est le vicaire général de l'archidiocèse de Paris, et qui est chargé dans mon archidiocèse, donc à Paris, des relations avec les musulmans. Enfin, on dit d'ailleurs sur la plaquette avec l'islam. Bon, moi, je crois que ça n'existe pas, les relations avec l'islam. On parle des relations avec les musulmans. Et d'ailleurs, ce Bruno Lefebvre Pontalis déclare, citation, « Le Coran est compliqué. » Point de suspension. Alors, j'ai trouvé que c'était une bonne entrée en matière, justement, pour parler de ce livre. Et la première question, parce que c'est vrai que le Coran, c'est compliqué, mais qu'est-ce que c'est exactement que le Coran ? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous développer ce thème ? Parce que, on va dire tout de suite à nos amis auditeurs qu'on ne va pas parler du Coran comme étant un livre qui a été dicté à Mahomet par l'archange Gabriel, quand même, directement par Allah.
C'est
quand
pas
même,
un livre.
On va rester raisonnable. On va essayer de parler de la genèse du Coran. Alors, dites-nous ce que c'est.
Que c'est. Bon, déjà, il ne faut pas dire que c'est un livre, parce que ce n'est pas du tout un livre qui a été fait par un auteur. Donc, c'est un corpus, et c'est hétérogène, de feuilles, de prédications. Alors, bon, le Père Galès parle de prédications de Nazaréens aux Arabes.
Nazaréen, maintenant, à chaque fois que vous allez utiliser un mot que moi je comprends, je suis obligé de vous faire parler.
Oui, dans le Coran, on ne parle pas de chrétien, on parle de Nassara. Donc, en fait, c'est un problème par rapport à la traduction. Est-ce qu'on le traduit par chrétien, ou est-ce qu'il y a d'autres communautés qui seraient plus aptes à porter ce nom ? Donc, en fait, vu qu'il y a énormément d'interpolations sur le mot nazaréen, donc ça suppute qu'il y a une communauté qui a été escamotée du Coran. Donc,
Leïla, en arabe, comment on dit chrétien ?
Dans le Coran, ils mettent Nassara.
D'accord, mais dans la vie de tous les jours, on ne dit pas Nassara.
Non, c'est d'autres mots que... Mais en fait, maintenant... les chrétiens s'appelaient eux-mêmes autrement, mais maintenant, quand vous êtes dans un pays arabe, on vous appelle comme ça. Oui,
d'accord.
On vous appelle Nassara.
Nassara, parce que c'est ce qu'il y a dans le Coran. C'est
dans
ainsi
Coran,
que
oui,
on suppose qu'il faut nommer les chrétiens. C'est ce qu'on a vu à Mossoul, quand la ville a été prise par l'État islamique.
C'est le
Noun de Nassara qui était mis en rouge sur les murs pour signaler que c'était des maisons ou des appartements de chrétiens qu'on pouvait s'y installer, qu'on pouvait les piller. En gros, c'était ça. C'était il y a 2 ans. C'est pas...
Bon, alors... Il n'y a pas que ces feuillets de prédication, il y a aussi des feuillets, qu'on va dire, liturgiques. Par exemple, la sourate 1 ou la sourate 96, donc des feuillets qui avaient des buts plus de prière. Mmh. Et puis, il y a aussi des feuillets idéologiques. Là, c'est plus net à voir, parce que le style est complètement différent des autres feuillets. On sent que c'est des scribes qui sont dans des bureaux, des scribes qui sont sous la coupe de calife, soit omeyyade, soit abbasside, qui ont à gérer un empire. Et donc là, le style n'est pas du tout le même que les feuillets de prédication, qui sont plus orientés sur l'apocalypse,
oui,
que les feuillets liturgiques. Donc, il y a vraiment quand même 3 sortes de feuillets, quoi. Et donc des feuillets qui sont là pour gérer les dhimmis, pour gérer l'Empire. Donc on sent que ces feuillets-là, ils ont été écrits après. Donc en fait, il y a des feuillets tout autant d'une chronologie. Donc c'est pas la même époque. Donc en fait, ça a été fait sur plusieurs siècles.
D'accord.
Et donc ces prédications sont faites en arabe, mais c'est souvent de la translittération de syro-araméen. Donc on sent vraiment que les auteurs, la plupart des feuillets, les auteurs maîtrisaient plus le syro-araméen que
l'arabe.
Voilà. Et alors ça, toutes ces feuilles, ça fait un corpus, mais ça ne fait pas un livre, parce qu'un livre, derrière un livre, il y a une intention, tandis que là, c'est des corpus de feuillets, donc avec des intentions qui sont diverses et variées. Mmh. Et après... C'est les processus d'édition qui sont multiples et variés qui vont donner encore une autre intention à ce corpus. Mmh. Et là, on dit que la tradition islamique dit que ce serait Othman en 656 qui se serait chargé de
la
cette
compilation.
Compilation.
Mais qui était Othman? Parce que les
c'est un calife, le troisième calife.
Les deux premiers califes, c'était qui alors? Parce que moi, je ne sais pas tout ça, c'est les auditeurs Radio Courtoisie, pas plus que moi.
Abou Bakr.
Qui était, qui est supposé être un compagnon de Mahomet.
Un beau-père, le beau-père. Donc lui, il aurait régné juste 2 ans. Et après, Omar. Et après, ils ont tous été assassinés. Hein. De toute manière, ça finit toujours mal. Là, les trois premiers, ils ont été assassinés. Et donc là, le troisième calife aurait décidé de faire cette compilation parce qu'il y avait des variantes qui se seraient introduites dans la récitation. Mais bon, par contre, ceux qui font la biographie de Othman, eh ben, ignorent complètement ce fait. Donc, en fait, ignorent le fait que Othman aurait compilé.
Alors, c'est une chose quand même, je m'excuse, c'est une chose énorme.
Incohérente.
Voilà, parce que si on dit que la tradition islamique dit que c'est Othman qui a fait la compilation du Coran en 656 et que les biographes d'Othman n'en parlent pas, ou c'est des mauvais biographe où il n'a pas compilé le Coran en 656. Alors, quoi.
Bon. En fait, dans les biographies, les traditions islamiques sont très, très contradictoires et on sait que l'élément qui revient souvent, c'est qu'il y a eu des autodafés tout le temps au cours de ces processus d'édition. Il y a eu au moins 2 ou 3 autodafés sous plusieurs califes.
Et vous dites que le mot autodafé lui-même revient souvent dans le Coran ou pas?
Pendant le Coran, mais dans la tradition islamique, pour dire qu'il y a eu des destructions, même la tradition islamique, mais surtout les chiites, enfin, ils vont parler du fait qu'il y a eu beaucoup de destruction de matériaux du Coran. Les chiites accusent les sunnites d'avoir fait disparaître toute trace de la famille de Mahomet, parce que Mahomet est très très peu cité. Donc les chiites, ils suspectent l'existence d'autres versions coraniques.
Tous chiites et sunnites suspectent les juifs et les chrétiens d'avoir eux-mêmes trafiqué leurs écritures. Alors
ça c'est plus dans une tradition très postérieure, parce que même si on regarde des traditions islamiques assez vieilles, on ne voit pas cette suspicion. Donc il faudrait qu'ils précisent quand est-ce que cette suspicion d'avoir trafiqué les textes... Parce qu'en fait, quand on voit le Coran se réfère énormément à la Bible, à la Torah, en disant que c'est bien. Il y a au moins une centaine de références comme quoi l'Évangile, la Torah... Le Coran se réfère à la Torah et à l'Évangile en disant « Cela est marqué dans la Torah, cela est marqué dans l'Évangile. » Et le prophète, il est dit qu'il jugeait d'après la Torah... Donc la Torah à l'époque du prophète, elle est valide. Oui. Donc à quel moment il y aurait eu falsification? La tradition musulmane, elle est très floue et elle est incapable de dire à quel moment cette falsification aurait lieu. Je pense que c'est un argument très très tardif pour se justifier par rapport à leurs propres incohérences, par rapport au fait aussi que le codex d'Othman, il n'existe nulle part, il a disparu. Il n'y a aucune trace de ce codex d'Othman. Soi-disant, il est très précieux, il a la parole de Dieu, il est envoyé dans 4 bibliothèques, et pourtant, il n'y a aucune traçabilité. Les chercheurs montrent qu'il n'y a pas de moyen de le retrouver.
Donc, mais alors, vers le 10e siècle, donc là quand même, on avance beaucoup dans le temps, hein, vers le 10e siècle, il y aurait une espèce de codex qui semblerait, typique, si vous voulez, qui semble s'imposer tout le monde, c'est ça, non ?
Oui, alors, mais malgré le fait qu'il y ait un codex qui de plus en plus s'impose, parce qu'en fait, il brûle énormément, notamment des variantes, des versions qui seraient des compagnons du prophète, mais en plus, il y a le problème des lectures. Il y a certains chercheurs, là, il y a un Américain qui a écrit un livre sur cette compilation, c'est assez compliqué, mais il parle d'un moment de 50 lectures du codex. Alors après, ça a été réduit à 14, puis à 7 lectures, et actuellement, il y en aurait 2 lectures. Alors, des lectures différentes suivant la voyélisation.
C'est le gros problème, c'est que s'il n'y a pas de voyélisation ou de signe diacritique ou je ne sais pas quoi, peut être interprété de 50 façons différentes.
Même beaucoup plus, parce que moi j'ai fait un répertoire de l'écriture ancienne islamique, et en fait, il n'y a que 10 graphèmes.
D'accord.
10 graphèmes pour désigner 150 phonèmes. Fait, à chaque fois qu'on a un graphique...
Graphème, c'est le signe, et phonème, c'est le son qu'il est supposé pouvoir...
Le même graphème, il peut correspondre à au moins 5 consonnes, et après, il y a, sur chaque consonne, on peut mettre 5 voyelles différentes, des voyelles courtes et des voyelles longues. Donc ça fait une complexité. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'écriture Hijazi, elle est défective.
Alors, Hijazi, ça veut dire quoi? Elle est de la province du Hijaz, c'est ça?
nom, il y a des différentes façons d'écrire l'arabe, et donc il y a l'écriture hijazi, c'est-à-dire qui se réfère à la région du Hijaz, mais c'est pas totalement vrai, parce qu'en fait, il y avait un autre alphabet plutôt au sud.
Voilà, ça, le Hijaz, c'est plutôt au nord de l'Arabie.
Enfin, je sais pas exactement. Oui. Enfin, je sais, je vois sur la carte, mais c'est la région de, c'est la montagne qui est au-dessus de Médine et de la Mecque, quoi. Mais bon, il y a une écriture qui s'appelle comme ça. Il y a l'écriture koufique. Mais en tout cas, l'écriture du Coran est souvent écrite dans cette écriture qui est très défective. Et il y a un gros problème parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on doit lire, en fait. Si on n'a pas le codex dit d'Othman à côté. Aucun arabe, enfin j'ai des amis arabes qui m'aident, ils sont incapables de le lire. Hein.
D'accord.
Il faut avoir fait de la paléographie, même en ayant fait de la paléographie, il y a des spécialistes sur des roches épigraphiques en arabie qui sont incapables depuis 150 ans, il y a différentes versions de traduction, parce qu'on peut aboutir à des phonèmes complètement différents. Et il y a des philologues comme le professeur Kropp, qui se lance là dans la traduction de passages du Coran problématiques et qui arrive à des traductions beaucoup plus logiques, beaucoup plus cohérentes au niveau du sens, mais qui vont dans un sens complètement différent du sens traditionnel, quoi.
Pour résumer pour nos amis auditeurs de Radio Courtoisie, le codex d'Othman, c'est-à-dire la version, on va appeler ça la typique, l'édition typique, si vous voulez, du Coran. Ça. Il a disparu, on ne sait pas où il est, personne ne sait où est-ce qu'il est, c'est clair. Bon, alors c'est quand même très intéressant, parce que bon, on ne sait plus comment, avec quoi comparer. Et alors, tous les autres codex, de toute façon, il n'y a pas de codex complet, ils sont tous plus ou moins incomplets.
Voilà. Ils sont tous incomplets, ils sont tous épars, ils ont tous des voyalisations, moi j'essaie d'en suivre mot à mot certains. Bon, le squelette est le même, sauf le codex de Sana, alors lui il est complètement différent. Parce qu'en fait, il suit pas forcément le codex d'Othman. Il a été trouvé très récemment.
Oui, c'est
et
vrai.
En plus, il y a des palimpsestes en dessous. C'est-à-dire que souvent, il y a deux textes l'un sur l'autre.
C'est-à-dire qu'on a gratté un texte en dessous pour écrire un texte par-dessus, c'est ça.
Et même celui codex là que j'étudie, il y en a un que j'arrive à bien me familiariser avec les lettres. Il y a des taches partout, des ratures, des coupures de pages, des coupures de... des niveaux d'encre. En fait, il y a souvent trois niveaux d'encre. Une encre marron, ancienne, qui est assez jolie. Après, c'est gommé, enfin, je ne sais pas quoi.
Gratté,
et après, une écriture noire. Et après, on voit qu'il y a une écriture rouge qui met des points, mais qui ne sont pas forcément les points qui correspondent aux bonnes voyelles.
Mon Dieu.
Alors, c'est très compliqué. Il y a des trous sur des mots-clés. Donc, en fait, moi, j'ai essayé d'étudier des pages où il y a... Enfin, je cherche les tâches. Je cherche les tâches pour voir si c'est un rapport
Bien sûr, c'est un travail qu'il faut faire, que ne font pas les musulmans eux-mêmes, parce qu'ils n'ont... Alors, donc, il faut comprendre, il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie... Voilà, que c'est un processus très très long qui vient de différentes sources.
En 1924, 1980, quoi.
Voilà. Il faut comprendre qu'on n'est pas dans une logique comme celle qu'on pourrait imaginer nous-mêmes. C'est une autre logique.
C'est un processus d'édition.
Voilà, c'est un processus d'édition. Voilà, c'est un livre qui s'est.
Arrêtez de dire que c'est un livre, c'est pas du tout un livre.
Non, non, voilà, c'est une collection de. Alors, c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas comprendre. À l'époque de Mohamed, il n'y a pas de musulmans. Le mot musulman, les musulmans vont venir beaucoup, beaucoup plus tard.
À partir de 1775, donc c'est des Magraillais, ils ont d'autres noms, des Saracènes, et ils s'appellent eux-mêmes autrement.
Oui, puisqu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une solution de continuité logique entre un musulman d'aujourd'hui et un musulman du 6e siècle.
Pas du tout.
Alors donc, le Coran, aujourd'hui, la version dite typique du Coran, en fait, elle date
1924,
pas de l'époque de 1924, c'est hier. Hein.
À l'hasard, qui va sélectionner une lecture, mais qu'elle attribue fictivement à Othman. Mais il n'y a pas de... Enfin, on ne peut pas retracer la traçabilité entre Othman, puisque ça a disparu, et puis on n'a pas le codex, puisqu'il n'y a pas de codex complet, il n'y a que des codex incomplets. Ouais. Je veux dire, le codex là, que j'utilise, il a 85%, il est à Berlin, mais il est qu'à 85%. Et dès qu'on arrive à la sourate 90, on a des feuillets, on dirait vraiment des papiers qui sont illisibles, tellement il y a deux couches l'une sur l'autre, et après, il n'y a plus les sourates qui vont avec. Il faut trouver dans un autre codex un petit bout de sourate, donc il n'y a aucun livre complet.
Donc, alors, à l'hasard, l'université d'Al-Azhar arrête les comptes en 1924, et puis alors l'Arabie Saoudite, là... Met un coup de tampon en 1980. Paf.
Ouais, c'est ça.
Voilà,
donc,
c'est bon.
Ils vont la valider. Donc voilà, c'est un texte assez récent, en fait, finalement. Voilà. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de processus complexes. Et Là, on a. Mais même actuellement, enfin, je lisais un livre d'un Américain, il disait qu'il y avait encore deux façons de lecture, donc même qui sont validées par l'université de El Azhar. Donc je ne sais plus le nom exact, mais il y a deux façons de le lire encore. Bon.
Alors, les thèmes de prédilection du Coran, c'est quoi? Parce que là, quand même, il y a dans tout ce. Oui, bon, je ne veux pas dire fatra pour ne pas insulter les auditeurs musulmans qui m'écouteraient, mais c'est pas. Enfin, c'est un classement, c'est hallucinant. Enfin, c'est classé. On voit très bien que ce n'est pas normal. C'est classé par la plus grande à la plus petite ou de la plus petite à la plus grande. Ça n'a pas de sens.
C'est fait pour aussi pour cacher le fait qu'il y a eu beaucoup d'emprunts. Il y a des emprunts massifs. Donc, en faisant comme ça un arrangement aléatoire, ça peut cacher des choses.
Ouais, je crois que ça a été bien. Alors, c'est quoi thèmes de prédilection qu'on trouve dans le Coran?
Oui, alors c'est quand même essentiellement, il y a quand même des thèmes. Je dirais, le premier thème, moi, je dirais, c'est l'annonce de l'apocalypse imminente. Donc, en fait, on sent vraiment que c'est un texte qui est porté par l'annonce d'une apocalypse imminente, ce qu'ils appellent, eux, dans le Coran, l'heure.
D'accord.
Et puis, alors, la tradition après islamique est dans les hadiths, c'est-à-dire tous les faits et les légendes et paroles qu'on attribue à Mahomet, mais qui c'est souvent des œuvres de commande, ben la tradition associe cette heure avec Jésus, avec le retour du Messie Jésus. Donc en fait, il y a l'Apocalypse, il y a l'heure et le retour de Jésus, mais ça qui n'est pas dans le Coran, mais qui est dans les hadiths et qui est associé à l'heure. Et il y a aussi l'annonce de la colère de Dieu qui s'abat sur les cités. Systématiquement, toutes les sourates, ça commence comme ça, c'est que vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas été gentil, vous avez été récalcitrant, l'homme est rebelle, l'homme est rebelle, ça c'est vraiment l'homme est rebelle.
Rebelle à l'annonce du...
Voilà, et rebelle à la prédication, qu'on appelle Coran, parce que Coran c'est une prédication orale.
Mm-hmm. Coran, le mot lui-même vient de...
Oui, c'est un mot araméen.
Araméen.
Un mot araméen et,
qui veut
et qui
dire...
est utilisé, qui est prédication.
Prédication.
C'est lié à la liturgie. C'est
d'accord.
Un mot que, vraiment qui a une source araméenne, parce que tout ce qui finit par « en » c'est araméen. Et donc, ceux qui sont récalcitrants, eh bien en fait, le châtiment de Dieu va s'abattre sur la terre, sur les cités, et va s'abattre sur eux, sur l'au-delà. Donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle à l'humanité.
Donc c'est tout le contraire de la bonne nouvelle de l'évangile, quoi. Donc
en gros,
c'est ça.
Voilà. Et puis le reste de la prédication, c'est un groupe de sourates, moi je dirais des sourates de petits numéros, c'est l'organisation pratique de la communauté.
Une communauté
qui, oui, une Oumma, qui, ça vient du mot mère, c'est l'assemblée, qui est parfaite, pure, et donc il faut justifier cette communauté. Alors pour justifier l'existence de cette communauté, en fait, ils vont prendre des motifs bibliques, enfin ils vont récupérer des motifs
du matériel biblique, oui.
Voilà, ils récupèrent du matériel biblique pour justifier que c'est maintenant une théologie de la substitution via Ismaël. C'est-à-dire qu'ils vont relever le temple, Ismaël va relever le temple avec Abraham, et donc le motif de ce relèvement du temple, il est important parce qu'il montre qu'on récupère l'alliance biblique, on se justifie, et toute la sourate 5, c'est pour justifier cette conquête arabe, eh bien en fait on utilise du matériau biblique pour montrer que les juifs ont été infidèles, ils ont tué des prophètes, ils ont insulté Marie, enfin ils ont fait tout un tas de choses catastrophiques, les chrétiens n'ont pas été fidèles, ils n'ont pas accompli l'évangile, ils se sont disputés entre eux, ils ont créé des schismes, donc du coup... c'est la nouvelle communauté qui prend possession et de la terre et de la bénédiction de Dieu. Et puis, ils sont justifiés.
D'accord.
Ils se justifient.
Alors, il y a des emprunts, ce qu'on appelle au midrash israélite.
Énormément. C'est essentiellement des midrash juifs.
Voilà. Et puis, beaucoup d'apocryphes de l'Ancien Testament, d'apocryphes du Nouveau Testament. On retrouve, parce que c'est dedans, c'est pas compliqué, parce qu'on connaît, on les a, les apocryphes. On les retrouve.
Les erreurs des midrash, les midrash souvent font des erreurs, et les erreurs qui sont dans le midrash, on les retrouve dans le Coran.
Voilà. Alors avec des légendes arabes, légendes perses, selon les écrivains, et alors beaucoup de mélitiques et d'hymnes chrétiens,
des extraits, c'est
absolument un peu de Talmud,
c'est travaillé, contrairement, c'est pas juste des extraits comme ça, en fait, moi j'ai regardé,
c'est recomposé,
c'est-à-dire qu'ils vont vraiment mélanger un morceau d'extrait syriaque. Enfin, ils ont souvent pris aussi l'auteur Saint-Éphrem de Syrie, et puis ils vont le mélanger avec quelque chose de talmudique, extrait d'un livre, d'un apocryphe, après ils vont mettre aussi ils vont prendre chez les Grecs, par exemple tout ce qui est vu médicinal, ils vont le prendre chez les Grecs, les découvertes, les miracles du Coran en embryologie, en fait c'est des vues sur les Grecs, par rapport à l'œuf et tout, donc il y a beaucoup de choses chez les Grecs, et des matériaux perses, C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est légende concernant les anges déchus. Ils vont prendre aussi la monture d'Al-Burak, enfin, le schéma d'Al-Burak sur lequel a monté Mohamed. Ça va être pris d'images perses. Il y a des matériaux arabes, par exemple la chamelle d'Allah, quoi, qui va être comme un équivalent de l'agneau de Dieu. Voilà. Et des évangiles apocryphes, surtout le proto-évangile de Jacques, avec... tout ce qui concerne Marie, le miracle du palmier. Donc Marie, ça devient un personnage à la fois musulman, mais à la fois qui est très fidèle aux évangiles apocryphes. Elle tisse le hijab, en fait elle tisse le voile du temple. Donc Marie est un personnage qui est vraiment associé au temple. Et il faut voir que le dôme du rocher est construit exactement sur les plans d'une église palestinienne qui était... exactement dédié à l'Alliance, à Marie Arche d'Alliance. Donc en fait, il y a des parallèles très... Bon, il y a un grand chercheur en Belgique, Guillaume Di, qui est vraiment très, très, très solide, et puis qui fait des recherches typologiques, mais fondamentales, et, enfin, c'est un philologue, et c'est extrêmement intéressant, parce que ça montre finalement que toute cette culture de l'Antiquité tardive et syriaque, elle est en relation, même si c'est en déformation, mais il y a quand même une relation, malgré les déformations, avec... les matériaux post-bibliques, quoi.
Eh bien, écoutez, chère Leïla Kadre, merci beaucoup de toutes ces informations là qui sont extrêmement extrêmement précieuses pour les auditeurs de Radio Courtoisie, qui pourront donc en discuter avec vous lors de la fête de Radio Courtoisie, qui se tiendra le 12 juin à Paris, puisque vous serez là avec vos, avec vos ouvrages. Et puis, vous reviendrez donc nous voir dans 4 semaines, je pense, le 23 juin, me semble-t-il. Et là, nous parlerons peut-être d'un autre thème qui va passionner aussi nos auditeurs, parce qu'on ne peut pas, hélas, tout traiter en si peu de temps. Le messager d'Allah, est-ce que c'est Mahomet ou est-ce que c'est Jésus? Voilà. Alors, ça va être très intéressant, et vous allez voir que ça va être très... Ah oui, mais alors on va pas répondre d'abord, va falloir développer, et ça va développer. Merci beaucoup de votre coopération et de votre passage ce soir sur Radio Courtoisie, c'était une grande joie de vous entendre, je pense que ça aura intéressé nos amis auditeurs de Radio Courtoisie, et ils auront l'occasion, je pense, de vous réentendre sur notre fréquence. Merci infiniment, et bon courage pour la suite de vos travaux. Merci infiniment. Voilà, donc c'était Leïla Kadre, qui est donc l'auteur des trois visages du Coran, et c'est le deuxième tome, qui s'appelle Les scénarios de l'écriture, dont elle vient d'aborder un tout petit morceau, qu'elle a eu la gentillesse de nous présenter ce soir. C'est un travail vraiment tout à fait intéressant, tout à fait remarquable. Alors, vous la retrouverez bien sûr sur Radio Courtoisie. Alors, quelqu'un me demandait de redonner les coordonnées des livres dont on a parlé. Ben, c'est le seul dont on a parlé jusqu'à présent, à part lui de Leïla Kadre. C'est, est-ce que vous pouvez nous... C'est l'histoire de France pour nos enfants. Donc, c'est édité par l'œuvre scolaire Saint-Nicolas. Vous pouvez demander ça, c'est très facile. Un numéro de téléphone ou peut-être un courriel pour l'œuvre. Alors, donc, l'œuvre, c'est gentil de me présenter des trucs comme ça. Œuvre scolaire Saint-Nicolas, c'est bon, là, je vois, j'ai des lunettes spéciales maintenant. J'ai une lunette pour voir. Alors, 01 47 36 17 36, quand je commence à fatiguer un peu, j'ai du mal à me prononcer. 01 47 36 17 36. Voilà, n'hésitez pas à appeler. Et puis, pardon pour l'auditeur, je n'avais pas percuté, parce que vous savez, je perds un peu la mémoire maintenant. Donc, tout à fait, j'ai reçu, c'était sur le site Americato que j'avais reçu cette information. J'ai vu cette journaliste musulmane et l'interview de l'abbé qui se trouve en Floride. Voilà, donc je l'ai vu, mais voilà, il faut que je le revoie parce que ça me passe tellement de choses, j'arrive plus à tout faire. Alors, j'avais donc des papiers que je suis en train de perdre. Et alors ça m'énerve parce que ça fait deux fois que je les perds. Non, l'en voici un. Et en voici un autre. Alors, cher Vivien, je vous ai préparé mes petites fiches. Moi aussi,
oula,
vous savez.
Avez des fiches, là.
Ah bah ouais, attendez, moi je suis pas comme Trump. Moi je parle pas comme ça, les mains dans les poches.
Oui, bah justement. Non, je vais mettre mes mains dans les poches.
Bah, je suis obligé de... Alors, je voulais simplement vous signaler aussi à nos amis auditeurs de Radio Courtoisie que... On sait depuis cet après-midi, donc depuis 16h30, là, que Trump est assuré d'avoir le nombre requis de délégués pour...
1237. Qu'il vient d'avoir tout à l'heure, effectivement.
C'est tombé à 16h30 cet après-midi. Je pensais que vous alliez apprendre quelque chose, mais vous en savez beaucoup plus que moi, évidemment. Alors, par contre, alors on va voir un petit peu, il y a quand même des problèmes de sondage, là, parce que vous savez que maintenant, Rasmussen, qui est un grand organisme de sondage américain, sérieux, très sérieux, ils font ce qu'ils appellent, depuis la semaine dernière, depuis jeudi dernier, d'ailleurs, ce qu'on appelle le White House Watch. Donc, c'est l'observatoire de la Maison Blanche, etc. Et ils font donc des sondages. Le premier était sorti jeudi dernier. Et là, il y a un nouveau qui est sorti. Alors, jeudi dernier... Merci beaucoup. Jeudi dernier, dans le duel Trump-Clinton, enfin Madame Clinton, si vous préférez, et Trump...
Crooked, pardon. Mais c'est la dénomination que lui donne Donald Trump, donc je peux me permettre. Crooked, j'ouvre les parenthèses. Crooked, Hillary. Ça veut dire...
C'est l'escroc
Hillary, quoi. Il appelle comme ça toute la journée sur les réseaux sociaux.
Il a raison.
Il a plus que raison.
La politique est faite de répétition, donc c'est connu.
C'est sûr, il appelle toujours comme ça, donc c'est rentré dans les mœurs quasiment. Et il a toujours appelé tout le monde de sobriquet, un peu comme au CP, dans les classes maternelles, on donne des surnoms à ses collègues. Là, lui, bon, c'est les autres hommes, tout le monde a un petit surnom. Pour Hillary Clinton, c'est Crooked. Voilà.
Crooked. Bon. Alors, le sondage de jeudi dernier nous donnait Trump en avance sur Madame Clinton, puisqu'il avait 42%, je crois que c'était 42% d'intention de vote, et Clinton n'en avait que 37%. Sur un millier à peu près d'électeurs, de gens qui vont voter. De gens dont c'est qui vont voter. Bon. Là, par contre, le sondage d'aujourd'hui est moins intéressant pour Trump, puisqu'il est retombé à 39% d'intention de vote, alors que Clinton est monté à 40%. C'est-à-dire qu'elle a gagné 3 points et lui en a perdu 3. Vous avez un commentaire à faire là-dessus ?
J'ai beaucoup de commentaires à faire. Il s'est passé des choses, hormis évidemment le fait que Trump ait eu ses délégués aujourd'hui. Parce que, bon, c'était sûr et certain, ça n'a pas changé les sondages. D'abord, c'est la réponse politique classique. C'est dans 6 mois, l'élection. Et il va se passer encore beaucoup de choses. Il s'est déjà passé beaucoup de choses. Et il va se passer encore beaucoup de choses d'ici là. Sur les chiffres, parce que c'est vrai que Rasmussen, c'est un institut de sondage relativement sérieux.
Il y en a d'autres, mais c'est un des sérieux.
Je trouve qu'ils sont beaucoup plus sérieux que les nôtres, d'ailleurs. Voilà. Je rappelle aussi simplement qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, Donald Trump n'était même pas n'était même pas sur le tableau des candidats à la primaire républicaine. Voilà, bon.
Et il est parti, je pense, le premier sondage qu'il y avait quand on a connu à peu près tous les prétendants, là, il avait
il était
12,
même pas.
12, 14, 15, et il était dedans, il avait un, alors les mecs étaient à 24, 23, oui. Il était un. Bon.
J'ai réussi à trouver une capture d'écran, il
voilà,
était à
c'est
un,
ça,
oui.
Un. Et je l'ai vu effectivement, et il a éliminer tous ses concurrents, y compris les cadors du parti, enfin du parti républicain.
Ce qui est mieux encore, cher Daniel et chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est qu'il a éliminé d'abord les cadors.
Oui, c'est vrai.
C'est d'abord Jeb Bush qui est tombé, qui était le grand favori. C'est d'abord Jeb Bush qui l'appelait. Il avait aussi un sobriquet, le pauvre Bush. Enfin, tout le monde en avait. Mais l'intello ou le pâteux, enfin quelque chose, encore de l'argot américain. Bon. Et le premier qu'il... Bon, je vais passer sur tout, parce que c'était quand même... tout à l'heure, en première partie d'émission à Game de Thieu, on a parlé de la France et de la primaire française. On va vraiment s'ennuyer à côté de ce qui se passe aux États-Unis.
Oui, c'est troublant, c'est très troublant. Ouais.
Et bon, il y a ce sondage, mais il s'est passé quelque chose, je vais le donner aujourd'hui aux auditeurs de la Courtoisie. Il s'est passé quelque chose...
Que de l'exclusivité sur Radio
Courtoisie. Non, l'exclusivité appartient à une chaîne que je vais citer, qui est Fox News, et qui n'est pas en concurrence avec Radio Courtoisie.
Non, pas encore.
Je pense, ou pas encore, mais il est vrai que nous diffusons sur les ondes Internet, donc les Américains peuvent écouter... Enfin bon, voilà. Il s'est passé quelque chose de très intéressant aujourd'hui qui prouve que Hillary Clinton est complètement décontenancée et qu'elle est vraiment mal barrée, cette dame.
On va parler pour lui. On va dire qu'elle est en situation délicate.
Elle est en situation très délicate. Mais disons que c'est elle qui se met avec une sorte de dédain. On connaît très bien ça. Les hommes politiques ont du dédain en France. Hein, on connaît par cœur. Mais elle agit avec les choses avec une sorte de dédain qui est assez incroyable. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que Bernie Sanders, qui finalement la talonne aussi de très près si j'ose dire, dans les élections.
Hein. Et lui met de bonnes corrections de temps en temps.
Et hein. qui gagne, oui, même régulièrement, il gagne souvent. Bon. Et ce qui se passe, c'est que Hillary Clinton, donc Bernie Sanders a proposé à Hillary Clinton un débat. Aujourd'hui, hein. C'est tout ça qui se passe aujourd'hui. Bernie Sanders, qui est très aimé par la base, par les jeunes, apparemment, les jeunes américains
de
gauche.
Les jeunes de gauche, les bobos, gogo, anarcho,
bien gauche, bien gauche. Ce qui s'est passé, c'est que donc Bernie Sanders a proposé un débat à Hillary Clinton. Clinton a refusé le débat. Trump a dit, Trump toujours en troublion, il est arrivé, il a dit, moi j'aimerais, écoutez, si Hillary Clinton, moi je veux bien débattre avec Bernie Sanders. Et Bernie Sanders a accepté.
Ah ça va être rigolo.
Du coup, il y a un débat Trump-Bernie Sanders, ce qui va être une folie aux États-Unis. C'est-à-dire, ce qui est aussi une première dans l'histoire des élections américaines, c'est que l'élection démocrate n'est pas terminée.
Non, non.
Ils sont en pleine primaire, les démocrates. Et d'ailleurs, bon, c'est pas si donné que ça encore pour Hillary Clinton, mais même si elle a toutes ses chances, c'est sûr. Mais première dans l'histoire, c'est qu'un candidat républicain va débattre avec un candidat de la primaire démocrate, alors qu'ils n'ont pas de candidat encore aux démocrates.
Ah non, voilà. Ils n'ont pas que c'est pas encore, ils n'ont pas quoi. Mais alors, c'est très clair.
Et cette alliance, c'est l'alliance
ce Bernie Sanders qui se dit maintenant social-démocrate, quand même, il a commencé sa carrière politique très, très à gauche. C'était vraiment un marxiste bontain. Votre poulain Trump a quand même, dans sa vie politique, dans ses engagements politiques, il a d'abord fait des affaires avant de faire la politique. Mais c'est bien. On ne fait pas de la politique pour faire des affaires. Lui a fait des affaires avant, maintenant il peut faire de la politique. Bon, oui. Au moins, on sait qu'il.
Les Bush faisaient ça.
Au moins,
on
sait qu'il tapera pas dans la caisse, par exemple. C'est bien. Mais.
Non, c'est pas très bien payé, président des États-Unis, à côté de ce qu'il gagne maintenant. Enfin, il ne fait pas ça pour le boulot.
Je veux bien changer mon poste.
Il ne fait pas ça pour le salaire.
Modeste poste de rédacteur de l'Observatoire de la christianophobie contre président des États-Unis. Vous voyez, bon. Alors, mon anglais arrivera à peu près. Bon. Alors, je ne serai pas.
Un peu fatigant comme
mais,
poste. C'est vrai que ça a pas l'air, vu Obama qui met ses baskets sur le, pardon, ses chaussures sur le bureau.
C'est intéressant. Et alors, on peut dire quand même que Trump a quand même beaucoup changé, parce qu'il a été démocrate, un temps, puis républicain, puis démocrate. Puis, bon, c'est quand même un peu bizarre, votre camarade, là, non?
Ah mais écoutez, ce qu'il y a chez lui, c'est qu'il est franc.
Moi, je vous écoute.
Alors, quand un journaliste, bien toujours
mais
pervers...
Il a des franchises un peu...
toujours pervers, disait, écoutez, monsieur Trump, pourquoi vous avez, par exemple, financé la campagne de Clinton.
Oui.
Et là, Trump qui répond, et alors, moi, je les tiens dans ma main. Si je la finance, ça veut dire, je suis en train, justement, de vous prouver, de vous montrer, A par A plus B, que le système politique américain est complètement vérolé par l'argent. Je vous le prouve, j'ai payé la campagne de Clinton
en partie, oui.
Pour lui demander des choses. Et là, le journaliste lui demande, oui, mais qu'est-ce que vous lui avez demandé? Je lui ai demandé de venir à mon mariage, elle est venue. Voilà la photo. Hop. Voilà. Et il est en train de dire, rajoutant derrière, parce qu'il est fin, enfin, il est quand même fin, rajoutant derrière,
c'est fou.
Sauf que moi, personne ne peut m'acheter. Voilà. Personne ne pourra me donner un billet pour que j'aille à son mariage ou que je lui fasse un forage pétrolier ou quoi que ce soit. Voilà. Contrairement à la lignée Bush, qui c'est autre chose.
Est-ce que, alors, c'est vraiment ce débat, beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie ne suivent peut-être pas avec autant d'attention que
vous,
la vie politique aux États-Unis, surtout en cette période préélectorale. Je rappelle que les élections présidentielles, c'est novembre, c'est le 8 novembre de cette année, donc ça vient très très vite. Ah bon. Et la campagne, pour les républicains, c'est fini maintenant, c'est la convention républicaine. Je vois pas d'autre solution. C'est trop tard pour avoir un candidat en troisième partie, à mon avis.
Il n'y a plus aucune barrière.
C'est impossible. C'est absolument
impossible. Bien que les auditeurs de Courtoisie comprennent que c'est un peu un premier tour, ces primaires. Comme nous, en France, on a un premier tour et un second tour. Comme il y a cette
rien à voir,
il y en a deux.
Ça n'a rien à voir.
Il y en a deux. Oui, non, mais
le système est
absolument différent.
Pour
que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent, c'est évidemment, il y a une complexité. Mais pour bien très simplifier. Souvent, les primaires républicaines et démocrates, c'est comme un premier tour de présidentielle, puisqu'après, il n'en reste plus que deux.
Voilà, en gros.
Et oui, en gros, c'est ça, un petit peu ça.
Voilà. La convention est là pour... Alors, parce que ça ne se passe pas... Puis, de toute façon, il n'y a pas d'élection, ce que j'ai expliqué tout à l'heure à notre ami Clotilde, il n'y a pas d'élection au suffrage universel du président des États-Unis, ça n'existe pas. C'est un... C'est-à-dire que là, ce qui se passe, ce qu'on appelle les primaires...
Mais c'est très compliqué.
C'est effrayant. Il n'y a que les anglo-saxons pour inventer des trucs aussi compliqués que ça. Ou la France d'ancien régime. Bon, voilà. C'est tellement compliqué. Les primaires vont déterminer le nombre de délégués que va avoir le candidat qui souhaite l'investiture de son parti. Alors, il y a des primaires qui sont des vraies primaires, il y a des caucus qui sont autre chose que des primaires, ça dépend des États bon, et des régions. Il y a des primaires où seuls les personnes inscrites au Parti républicain, comme étant électeurs du Parti républicain, peuvent voter.
Caucus fermé.
D'autres, c'est ouvert. Même caucus les démocrates ouvert. Peuvent venir, ou les libéraux, machin truc, ou les adventistes du 7e jour, tout le monde peut venir voter pour le truc. Bon.
Et des caucus alors, semi-ouverts aussi.
Semi-ouverts, alors c'est hallucinant. Alors, vous avez des primaires où le gars qui a eu le plus de voix de trucs prend tous les délégués. D'autres où le nombre de délégués est proportionnel au nombre de voix. D'autres où c'est encore plus compliqué, c'est tempéré par autre chose. Alors c'est quand même un vrai sens là. Ensuite, donc ces délégués vont se retrouver à la convention du parti, qui là va entériner la chose. Mais après, les Américains vont voter. Pour de bon, c'est avec des bulletins électroniques. Mais ils ne vont pas élire le président de la République. Ils vont élire des délégués qui vont eux-mêmes élire des grands délégués, ça va être des grands électeurs, qui eux vont se réunir dans une super convention à Washington pour déterminer, parce qu'ils ont des mandats quasiment impératifs, pour déterminer qui va être le candidat et le président. Alors je veux dire, c'est d'un compliqué, c'est horriblement compliqué. Mais c'est très rigolo. Et ce qui est très rigolo cette année, c'est le débat Sanders,
Trump,
parce que c'est les deux gars, on peut dire, anti-système, quoi.
Qui ont tout renversé sur le...
Les deux sont des gars anti-système. L'un à gauche, l'autre, on va dire, à droite. Mais tous les deux sont anti-système. On est vraiment dans un truc qui n'est pas du tout à la française, quoi. Tout à coup, il y a deux types. Un Bernie Sanders, qui était sénateur de je ne sais plus où, enfin, une espèce de gauchiste mal lavé, mal rasé, et puis l'autre, là, l'homme d'affaires qui a construit des tours, etc., avec son nom marqué dessus en lettres de 15 mètres de haut, bon, qui donne des coups de pied dans la fourmilière de leur parti et de l'établissement politique. Et ça, c'est vraiment, je trouve, tout à fait passionnant. Et la campagne est vraiment très intéressante à suivre. Enfin, pour moi, évidemment, parce que je m'intéresse aux États-Unis, mais et pour vous aussi, qui êtes l'un des animateurs du comité de soutien, comment ça s'appelle, votre truc, ça s'appelle le comité de Trump France, c'est ça? Vous n'avez toujours pas de site internet, faut vous dépêcher, il va être élu avant que vous l'ayez votre site. Là.
Nous sommes désormais une association.
D'accord, mais il y a une page Facebook.
Tout ce qui va se passer avec, un compte Twitter, une page Facebook, des insultes des médias qui fouillent notre vie, qui nous font des... Oui. Des pages entières pour la fachosphère qui soutient Trump, etc. Maintenant, attention, parce que maintenant...
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, c'est très marrant, il y a le syndrome français, quoi. C'est-à-dire que Trump est traité de fasciste, d'émule d'Hitler. Mais c'est quand même très marrant, jamais ça s'est passé dans une élection. On les a traités de trous de balle ou de chapeau de la porte, mais fasciste, émule d'Hitler, attends. Il y a quasiment... une grande réunion de Trump sans que ça se tape, qu'il y ait des petits gauchistes, les antifas locaux, parce qu'il y a les antifas aussi là-bas, qui viennent faire le bastringue. Il y a encore eu quand même plusieurs policiers qui, comme chez nous, étaient mis KO, quoi. Bon, les mecs en face n'ont pas été mis aussi KO. Là-bas, ça rigole.
Ouais, ça rigole
un peu moins qu'ici. C'est vrai que la police américaine tue plus que la police française. Bon, voilà,
parce que les élites, le système, les médias, etc., personne ne veut que Trump passe, parce que c'est clair. Et c'est en cela qu'il est aussi intéressant, ce personnage. C'est qu'il est autosuffisant, donc il est beaucoup plus... Enfin, il est émergé tout seul, il avait le potentiel pour émerger tout seul.
Ouais.
Vu sa carrure, vu son tempérament, vu son argent...
Il représente un mécontentement un petit peu comme... C'est l'inverse de... C'est le frère siamois découpé de Bernie Sanders. Ce sont des gens qui récupèrent quoi, les votes de gens qui ont été massacrés par le système, enfin, que ce soit des petits blancs, des petits ouvriers, des petits agriculteurs, ou des... C'est
j'ai l'impression qu'il représente plutôt un réflexe vital, quoi. Mm-hmm. Un réflexe de survie du peuple américain. Alors que, évidemment, chez Bernie Sanders, ça représente plutôt une sorte d'émergence boboïque pour la justice sociale. Quoi.
Nihiliste, un petit peu.
C'est communiste, hein. Enfin, c'est un discours qui est très admis en France, que tient Sanders. En France, on est
mais Bernie Sanders, c'est un grand admirateur de
Pape
François.
C'est chaud. Ah bah oui, non, mais ils s'embrassent tous les deux, c'est clair. On va pas épiloguer là-dessus. Pape François qui a attaqué Donald Trump. Il faut voir aussi que Donald Trump a résisté à des attaques foudroyantes, régulières. Alors, évidemment, je pense que, suivant sa campagne de près, en France, aux États-Unis, regardant tous les médias, Je pense que jamais une seule personne n'a été attaquée avec une telle ampleur, avec une telle désinformation, avec de tels mensonges, de telles attaques ras la ceinture que Donald Trump. Dans le système mondialisé où on est, ça peut être très violent sur Internet, etc. Mais il est là et il va sûrement s'asseoir dans le bureau ovale sans mettre ses chaussures sur le bureau comme fait Obama.
Bon, alors ça, c'est là pour la. Ça, c'est. Bon, je ne l'espère pas. Je ne sais rien. Tout ce qui m'intéresse chez le personnage, c'est qu'il est très peu interventionniste à l'étranger. Il est plutôt centré sur les États-Unis. Et ça, c'est pas plus mal.
Ah, il nous laissera
parce
tranquille.
Parce que l'Empire nous fiche un petit peu la paix au plan mondial. Ça nous ferait des vacances. Hein, voilà, ça ferait des vacances aux Irakiens, aux Syriens, à tout le monde. On serait quand même un peu tranquille, quoi. Voilà. Eh ben, merci, cher Vivien Hoche. Eh ben, vous reviendrez peut-être parler dans.
Quand il sera président, non.
Le 23 juin. Non, non, non. Le 23 juin, vous reviendrez peut-être nous faire un petit truc.
Ah,
oui, allez. On va regarder les sondages de près. Merci, chère Clotilde Kronbrugge, d'être venue jusqu'à aussi au Drap de Courtoisie pour votre première. C'était pas mal.
Merci pour votre accueil, surtout.
Ça vous a pas. Il n'y a pas de quoi tomber à la renverse avec moi. Enfin, en tout cas, avec moi.
C'était pas très
intéressant. Voilà, donc merci, Jérôme Triomphe. Mais maintenant, il nous l'a bien sûr raccroché. Puis il y a Leïla Cadre qui, ce soir aussi, nous parlait par téléphone. Donc, deux dames ce soir et deux messieurs. Merci infiniment, chers amis. On se retrouve le 12 juin pour la fête de Radio Courtoisie. Le 23 juin, jeudi 23 juin, pour la nouvelle émission du Libre Journal de Chrétienté. D'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Chrétienté, dirigé successivement par Guillaume de Thieulois et par Daniel Amiche, diffusé en direct jeudi 26 mai 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé vendredi 27 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.